Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Henri Pradalier.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes maître de conférence émérite et puis vous nous faites voyager, maître de conférence en histoire médiévale, pardon, histoire archéologie et connaissance fine de tout ce monde médiéval. Et vous nous faites voyager depuis deux émissions déjà autour d'une date importante qui est 1096, la consécration de l'autel de la Basilique Saint-Cerné à Toulouse. Alors ça nous a conduit même jusqu'à Clermont-Ferrand et puis aujourd'hui on va aller un peu peut-être vers l'Espagne.
Oui, ça nous a ramené aussi à Toulouse, hein, au contexte toulousain. Et c'est aussi cette belle cérémonie qui est une cérémonie vraiment majestueuse, pontificale. Elle va ouvrir ou elle va à Toulouse permettre d'ouvrir sur l'Espagne. J'aimerais que vous puissiez nous l'expliquer.
Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. D'abord, on a parlé de la consécration du monument, mais il y a la consécration de la table d'autel. Et dans le support de la table d'autel, on place des reliques. Celle de Saint-Cernin, évidemment, mais aussi celle de Saint-Exupère,
le premier
qui
évêque,
a été le constructeur de la première basilique, et qui est là en tant que défenseur de la foi. Parce qu'il a lutté contre Vigilance, qui était un hérétique, lequel s'est d'ailleurs réfugié en Espagne, c'est intéressant. Et il a aussi défendu Toulouse contre les barbares, protégé Toulouse contre les Vandales, les Alains qui assiégeaient Toulouse.
On lui attribue toulousaine.
C'est le deuxième patron de Toulouse, Exupère, après Saint-Cernin. C'est le défenseur, le protecteur de la ville. Donc il est normal qu'il soit dans le support de la table d'hôtel, mais alors il y a très curieusement Saint-Acisque. Alors, Saint-Acisque, qui est-ce? C'est un martyr du IVe siècle, de l'époque de Dioclétien, mais qui est de Cordoue.
Ah, il est martyrisé à Cordoue?
Martyrisé à Cordoue, en 303, très vraisemblablement. Et il est évident qu'il y a une allusion au califat de Cordoue à travers le choix des reliques de ce saint, même si en 1096, le califat de Cordoue est tombé depuis longtemps, depuis plus d'un demi-siècle déjà, mais ça résonne encore comme
on rappelle la présence mauresque et
l'inquiétude que ça a suscité jusque tout à fait dans le nord de l'Espagne. Alors, ça c'est un premier point qui montre qu'on regarde vers l'Espagne. Le deuxième qui est très intéressant, c'est la liste des prélats consécrateurs. Il y en a 16, on en cite 6 seulement.
Donc ils sont choisis.
Ils sont choisis,
voilà,
exactement. C'est pas n'importe qui. Je signale au passage qu'on n'entend pas parler de Izarn, de l'évêque de Toulouse.
Il n'est pas là.
Il n'est pas cité. À mon avis, il boude.
Dans sa cathédrale.
Oui, dans sa cathédrale,
au bout de la ville.
Bon, enfin, j'en sais rien, mais c'est une hypothèse. Oui. Mais il n'est pas cité, en tout cas. Par contre, en dehors de ceux qui accompagnent le pape et qui font partie de la cour pontificale, dont celui qui sera son successeur, un jour d'ailleurs, à côté de ça, il y a 3 prélats qui ont des sièges épiscopaux en Espagne. Il y a Bernard de Sédirac, qui est un clunisien, comme Urbain II, ne l'oublions pas, qui est chargé de diffuser la réforme clunisienne et la réforme grégorienne en Espagne, et qui a été envoyé dans les états d'Alphonse VI, roi de Léon et de Castille, pour diffuser cette réforme. Et c'est lui qui deviendra archevêque de Tolède, donc primat d'Espagne, en 1085, donc 11 ans avant Toulouse quand même. Il devient prélat, primat d'Espagne, et il s'est d'ailleurs comporté d'une façon malhonnête vis-à-vis du roi de Castille, parce que le roi de Castille avait promis aux musulmans qu'il leur laisserait la mosquée. Lui, il est rentré en armes dans la mosquée, et hop, il l'a transformé en cathédrale. Bon, c'était pas très honnête. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est lorsque Bernard de Sédirac, en 1097, a songé à partir en Terre Sainte. le pape l'a relevé de son vœu et lui a dit non, vous retournez à Tolède, votre travail c'est à Tolède. Donc il est évident qu'on a l'intention de s'implanter contre les Zagarani, parce que c'est comme ça qu'on appelait les musulmans. Le mot de musulman n'est jamais utilisé. On parle des Sarrasins ou des Agarani, c'est-à-dire des descendants d'Agar, de la servante de répudiée d'Abraham. Donc, il l'oblige à rester à Tolède. Deuxième évêque, c'est Amat, qui a été évêque d'Oloron et qui est devenu légat apostolique en Espagne, c'est-à-dire le représentant du pape en Espagne. Donc lui aussi, il a transformé la mosquée de Huesca en cathédrale. Donc on voit qu'il y a une pénétration vers le sud qui se fait régulièrement. Et enfin, le troisième, c'est Pierre d'Andouque, qui est Rouerga, qui est un ancien moine de Conques et qui est évêque de Pampelune, où, là aussi, il diffuse la réforme clunisienne et il donne d'ailleurs des possessions à Saint-Cernin de Toulouse, en particulier l'église d'Artajona, qu'il donne aux chanoines de Saint-Cernin de Toulouse, qui leur sera confisquée ensuite par le comte, mais qu'il faudra qu'ils rendent. Bon, enfin, n'entrons pas dans les détails. Bon, il a d'ailleurs diffusé le culte de Sainte-Foy de Conques, que l'on va présenter assez rapidement, comme la protectrice des chevaliers de la foi, Sainte Foi. Et elle est représentée plus tard avec une épée à la main, comme la, en quelque sorte celle qui apporte le christianisme dans l'Espagne.
Donc c'est une foi militante.
C'est une foi militante. Alors c'est Cluny qui est derrière tout cela, bien sûr. On voit bien
le avec pape réseau clunisien
qui est derrière ça. Et d'ailleurs... on parle de la première croisade, 1099, prise de Jérusalem, mais il y en a eu une avant, qu'on a appelée la croisade de Barbastro, qui a consisté en 1063, à l'initiative du pape Alexandre II, d'envoyer des chevaliers chrétiens prendre la ville de Barbastro. Et on a appelé ça la croisade de Barbastro, qui a été prise en 1063. Cluny a fait un battage extraordinaire autour de cette victoire. L'année d'après, les musulmans ont repris la ville. Mais bon, ça, on ne l'a pas dit.
Et juste une question, un coin du voile sur cette cérémonie. Tous ces prélats sont en chape dorée, on chante le grégorien, l'encens flotte dans toute la basilique.
Ah oui, absolument, oui, c'est fastueux. Il y a les cierges, l'encens. Alors, les vêtements liturgiques, peut-être pas des chapes dorées, mais ils sont évidemment vêtus de vêtements de qualité. Oui, c'est quelque chose de somptueux.
On a une idée du temps de déroulement de la cérémonie.
C'est long.
C'est très long.
C'est long, oui. Ça dure des heures. Ça dure des heures. Vous savez, encore au XVIIe siècle, on conseillait aux curés de ne pas dépasser trois quarts d'heure dans leur sermon. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, au bout de 10 minutes, tout le monde en a assez.
Et est-ce que c'est une cérémonie qui a eu une assistance populaire?
Oh, vraisemblable. On n'a pas de texte. On n'a pas de renseignements.
Mais on peut penser
mais
que...
on ne peut pas imaginer. Ça, quand on voit la foule qu'il y avait à Clermont, c'est la même chose à Toulouse. Et partout où le pape est passé, parce que j'ai oublié de le dire, mais partout où il passe, on lui fait consacrer ce qui est consacrable. Y compris à Carcassonne, le tas de pierres préparées pour la construction de la cathédrale. Même il y a des endroits où on lui fait reconsacrer un hôtel qui avait déjà été consacré. Donc franchement, on profite de sa présence.
Et alors, revenons à l'hôtel dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Cet hôtel, c'est celui que nous connaissons, ce très bel hôtel en forme d'évier, dont vous allez peut-être nous parler, le décrire, parce qu'il est exceptionnel.
Oui, il est exceptionnel. Il n'est pas unique. Il fait partie d'une série de tables d'hôtel à l'aube, que l'on appelle des tables d'hôtel à l'aube, mais il est en marbre de Saint-Béat. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il est sculpté sur sa tranche. Et qu'il alors quelque chose de rarissime pour l'époque, ici, dans la région, c'est que nous avons à la fois la date, puisqu'il est consacré à 1096, l'œuvre, nous l'avons toujours, et celui qui l'a sculpté, le nom, qui est inscrit sur la périphérie de la table d'hôtel, et le sculpteur s'appelle Bernard Gilduin. Et sur la tranche, il y a représenté des scènes diverses, en particulier un Christ dans un médaillon porté par des anges, qui nous permet de définir le style de ce sculpteur, Bernard Gilduin, que l'on retrouve ensuite ailleurs dans la basilique, dans le déambulatoire et sans doute des épigones à la porte Miégeville.
Est-ce que cet hôtel est aujourd'hui à la place qu'il occupait lorsque l'édifice a été consacré?
Probablement pas.
Oui.
Il est à la croisée du transept aujourd'hui. On doit imaginer qu'il était un peu plus à l'est, vraisemblablement.
Ah oui, près des reliques. Oui.
Alors, il y a une tentative de reconstitution de l'abside et du cœur de Saint-Cernin de Toulouse qui a été faite par Ton Lyman. Il propose, lui, carrément une sorte de surélévation dans l'abside avec l'autel au-dessus et dans la partie inférieure, il y aurait eu le sarcophage de Saint-Cernin. Mais c'est une hypothèse et dans son dessin, il manque l'escalier qui permettrait d'atteindre cette surélévation.
Oui,
donc,
oui.
C'est un peu bizarre.
Et de la même façon, toujours s'agissant de l'hôtel, on a aujourd'hui un baldaquin qui est très baroque.
Oui.
Est-ce qu'au départ, on avait un agencement différent?
Oui. À l'époque gothique, on a surélevé les reliques, on a pris le sarcophage, on l'a surélevé, et on a construit un magnifique baldaquin gothique qui était un chef-d'œuvre absolu, dont il ne reste que le soubassement dans la partie, dans la crypte actuelle. Il reste le soubassement, mais la partie supérieure, montée dans l'abside jusqu'à une hauteur de 7 mètres, et
c'est considérable.
C'était déjà presque du gothique flamboyant.
Eh bien, tout ceci nous incite à revenir à Saint-Cernin. Merci infiniment de tous ces éclairages que vous nous avez apporté sur cette consécration et son contexte. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Pradalier. Donc deux conseils de lecture pour finir. Les références seront sur le site d'émission. Jean-Marie Payet, 250, Le Martyr de Saint-Cernin. Et bien sûr le livre de Monsieur Henri Pradalier, 1096, La consécration de l'autel de Saint-Cernin par le pape Urbain II. Et ces deux ouvrages sont aux éditions Midi-Pyrénéennes et d'une lecture fort agréable. Bonne semaine à tous.